Nous vous proposons maintenant une conférence donnée dans le cadre de formation Passeur d'Hommes, la saison 2. Une conférence qui a été donnée au Christ-Roi à Toulouse le 5 novembre. Le thème en était Raison d'être de la famille. C'est avec Esther Pivet. C'est tout de suite. Bonne écoute sur Présence.
Merci, bonsoir. Donc je vais essayer de vous faire part dans cette conférence de choses qui, moi, m'ont bouleversée, des choses que j'ai apprises et je me suis dit en les entendant, mais pourquoi on ne m'a pas dit ça plus tôt ? Moi, je suis mère de famille, mariée, mère de famille de 4 enfants. J'ai une petite fille au ciel. Et voilà, donc la famille en 55 minutes, donc je commence tout de suite. Donc vous avez sûrement entendu parler de cette expression, à savoir la famille est la cellule de base de la société. Formidable. Effectivement, quand dans une famille ça va bien, quand les parents s'aiment, font tout ce qu'il faut pour s'aimer malgré les difficultés, eh bien les enfants peuvent s'épanouir dans un climat serein, en sécurité, et développer tous leurs talents et être le plus équilibré possible, on va dire, au moins sans trop de blessures, parce que qui est sans blessures ? Donc on est tous d'accord avec ça. La fraternité qu'on vit dans la famille, eh bien finalement, on apprend dans la famille à aimer. C'est ça la fraternité, à s'aimer les uns les autres. Et donc en s'aimant dans la famille, on va pouvoir aimer ensuite dans la société les autres. C'est déjà, voilà, c'est le modèle pour pouvoir aller aimer dans la société, vivre la fraternité dans la société. La famille où chacun prend soin de l'autre, de celui qui est fragile. Et nous sommes tous fragiles à un moment ou à un autre de notre vie. Il n'y a pas que les personnes handicapées ou les enfants ou les vieillards. Tous, bien sûr, ils le sont plus que les personnes en général, mais tous, nous avons une fragilité à un moment ou à un autre de notre vie. Et donc, la famille est le lieu où on prend soin les uns des autres au moment où on en a vraiment besoin. Or, depuis 50 ans, la famille est attaqué par des lois successives. Et donc, on peut se dire, mais enfin, ceux qui attaquent la famille à ce point, enfin, ils sont fous. On voit bien que quand une famille va bien, comme je vous le disais, les enfants vont bien, et ensuite, ils auront une famille où ça ira bien, etc. Mais que font-ils ? En fait, ils ne sont pas fous. Ils sont juste avides de puissance et de jouissance. Avides de pouvoir et de sexe. Avides de toute puissance, d'abord. Et cette toute-puissance s'accroît avec la technique issue de l'intelligence de l'homme, qui est la seule chose noble chez l'homme. Et donc, il est avide d'être le maître du monde, le maître de la vie, pour faire progresser l'humanité toujours plus avec un homme perfectible à l'infini. Et ça, c'est la technique qui le permettrait. Il faudrait arriver à ce qu'on appelle maintenant, vous avez peut-être entendu parler, à l'homo deus. Et la racine de ce combat est dans la pensée des Lumières, je n'y reviens pas, j'en serais incapable, affirmant qu'il n'y a aucune limite à la perfectibilité de l'homme. Je dis ça simplement pour qu'on prenne conscience du fait que toute cette déconstruction a des racines très 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 profondes, et ce n'est pas en l'espace de quelques années qu'on va tout reconstruire. Voilà. Donc ça permet de resituer les choses à leur place. Et donc pour arriver à l'homo deus, avec une intelligence toujours plus grande, là l'intelligence, il faut la comprendre comme une intelligence de calcul, une intelligence de technique, mais pas du tout l'intelligence du cœur, eh bien, il faut faire en sorte que la procréation ne soit plus qu'une technique pour pouvoir choisir les embryons, même, ils y pensent, en tout cas en Chine, semble-t-il, intervenir in utero pour améliorer les capacités intellectuelles de l'embryon et du futur enfant, et donc ainsi améliorer l'espèce humaine. Et donc, pour que la procréation ne soit plus qu'une technique, il faut détruire la famille. Il faut détruire l'amour humain, l'amour entre l'homme et la femme. Il faut détruire ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on nous force à appeler l'hétérosexualité. Parce que sinon, il y aurait encore des hommes et des femmes qui auraient l'idée saugrenue de s'unir pour avoir des enfants. Donc il faut que l'hétérosexualité, comme on nous dit, ne soit plus normale. Il faut qu'elle soit à la marge. Récemment, en France, je crois que c'était à Paris, mais je ne suis pas sûre, il y avait un colloque organisé par des féministes radicales pour aider les femmes à sortir de l'hétérosexualité. On en est là aujourd'hui. Avide de toute puissance, donc pour maîtriser la vie, et donc il faut que la procréation soit complètement maîtrisée, et donc que le couple homme-femme soit détruit. Avide de jouissance, deuxième point. Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial, qui n'était pas du tout un mouvement pour aider les femmes à réguler les naissances. Non, c'est un mouvement pour aider les hommes, surtout les hommes et les femmes, et en fait en sont les victimes, mais ça, elles ne le savent pas, à jouir un maximum. Donc je vous cite Marguerite Sangère. « Par le sexe, l'humanité peut atteindre la plus grande illumination spirituelle qui va transformer le monde, qui va illuminer l'unique chemin vers un paradis terrestre. » La devise du planning familial, c'est « liberté, égalité, sexualité » au pluriel. Alors, pour espérer atteindre cette toute-puissance sur la vie humaine et ce paradis terrestre de la jouissance sexuelle sans limite, il est nécessaire de considérer le corps humain comme une matière animale qu'on va pouvoir manipuler, utiliser à l'envi et pouvant être détruite quand elle ne nous convient pas ou est inopportune, d'où l'avortement et l'euthanasie. Et donc la destruction du couple humain, l'union de l'homme et de la femme dans le mariage, qui fonde une famille humaine, passe certes par la destruction du sens du mariage, et on va le voir, mais ça passe d'abord par une destruction de la signification du corps humain. Il s'agit de faire penser aux gens, aux personnes, que le corps humain n'est qu'un matériau, n'est que de la matière, une somme de processus biologiques qui nous permet certes de vivre, et surtout de jouir, mais qu'en aucun cas, notre corps nous définit comme personne humaine. Notre corps, c'est comme une matière animale, un objet dont on peut jouir. Et ces déconstructeurs veulent nous faire penser que toutes les limites et les contraintes de notre corps peuvent être surmontées grâce à l'intelligence de l'homme qui, enfin, grâce à la technique, va pouvoir assouvir tous les désirs de l'homme. Et si je prends un seul exemple, le slogan des féministes radicales « Mon corps m'appartient » en est un exemple. Quand je dis « Mon corps m'appartient », c'est que je considère que mon corps est un objet. Alors, mon corps ne m'appartient pas, je suis mon corps. Et donc, cette volonté de destruction de la famille n'est que l'ultime conséquence, n'est que la conséquence actuelle du péché originel. Péché originel, vous souvenez, le serpent qui dit à Adam et Ève, « Vous serez comme des dieux. » Et « vous serez comme des dieux », c'est bien ça, c'est la toute-puissance, le pouvoir et la jouissance. Et donc, c'est ça que je vais développer dans cette conférence. Et donc, la seule chose, ou plutôt la seule personne qui peut nous sortir de là, évidemment, c'est le Christ, qui est venu nous restaurer et nous permettre de vivre le beau projet que Dieu avait à l'origine en nous créant hommes et femmes, parce qu'il avait un beau projet pour nous que je vais vous brosser très rapidement. Et bon, alors donc ça veut dire que pour sortir de tout ça, il faudrait que tout le monde se convertisse. Bon, alors c'est pas de mal la veille. En fait, la raison ne va pas être suffisante, si vous voulez. C'est ce que je voudrais vous montrer. La raison ne va pas être suffisante pour sortir de toute cette déconstruction. Seul le Christ va nous permettre de nous en sortir. Mais Dieu nous a envoyé pour notre temps, enfin en tout cas, il a envoyé Saint Jean-Paul II, qui est celui qui a développé une théologie du corps. Vous savez, c'est des catéchèses qu'il a données tous les mercredis matins pendant 4 ans de son pontificat, au début de son pontificat. Cette théologie du corps, dit le biographe de Saint Jean-Paul II, est une bombe à retardement théologique. Et cette théologie du corps, moi je la diffuse comme je peux, à mon niveau, je vous expliquerai comment, mais je peux vous assurer qu'elle bouleverse totalement la vie, notamment des jeunes qui ont été blessés dans leur sexualité de manière énorme. Et elle les bouleverse, et ce sont des torrents de larmes. Et ce Seigneur nous a envoyé pour notre temps, où tout est déconstruit, un homme qui a développé, à partir de la Bible, à partir de ce que dit le Christ, le sens du corps, qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce qu'il signifie, et c'est ce que je vais vous montrer, pardon, je vais pas le dévoiler tout de suite. Et donc, en 3 temps, cette conférence, je vais vous parler de la déconstruction de la famille, premièrement, rapidement, du beau projet de Dieu pour l'amour humain, et enfin, comment reconstruire. Il me reste 40 minutes. Bon. Alors, 1, la déconstruction de la famille, donc je vais aller très vite. Il y a différents champs d'attaque dans la déconstruction de la famille. D'abord, la destruction du mariage en tant qu'institution établie pour fonder une famille. C'est ça, le mariage. Donc, il y a eu l'autorisation de la commercialisation de la contraception en 67, sous le consensuel prétexte de permettre une régulation des naissances plus facile. Je liste pour l'instant. En 75, le divorce par consentement mutuel. Aujourd'hui, 45% des mariages se soldent en divorce. en 75 toujours, l'avortement, passé de l'exception à la norme et rendu de plus en plus accessible par les lois diverses, aujourd'hui 220 000 avortements par an. En 99, le PACS, qui est un contrat entre deux personnes, aujourd'hui on a 200 000 PACS pour 250 000 mariages par an. Aujourd'hui, 50% des naissances sont hors mariage. Et enfin, en 2013, le mariage et l'adoption pour les personnes de même sexe, c'est un changement du sens du mariage, ce n'est plus la même définition du mariage. Et donc, on l'a dit, les personnes s'aiment, donc elles peuvent se marier. Ce n'était pas ça le mariage. On a changé la définition du mariage. Donc, premièrement, destruction du mariage en tant qu'institution fondant une famille. Deuxièmement, effacement de la différence sexuelle. Et là, on est en plein dedans, c'est ce qu'on appelle l'idéologie du genre. L'idéologie du genre affirme que toutes les différences entre les hommes et les femmes sont d'une pure construction sociale. C'est l'éducation, les savoirs qui nous auraient formatés dans un rôle masculin, un rôle féminin, dans des tâches masculines et féminines. Et toutes ces différences ont été faites par l'homme pour opprimer la femme. Et donc, il y a un conflit entre l'homme et la femme, et donc pour se sortir de ce conflit, il faut éradiquer la différence sexuelle. Et donc les idéologues du genre affirment que le corps, notre corps, n'a aucune signification. C'est juste un élément biologique. Et il ne dit absolument pas ce que nous sommes. Donc, deux conséquences. Je peux choisir qui je suis, mon identité, ce qu'on appelle l'identité de genre. Donc, j'ai beau avoir un corps féminin, je pourrais me déclarer homme ou autre chose, girafe, chat, cacahuète, j'en sais rien. Donc, ça, c'est l'identité de genre. Et deuxième conséquence, donc ils veulent sortir de l'hétérosexualité. L'homosexualité est bien plus enviable puisqu'on n'a plus cette différence sexuelle qui nous pose problème. Et donc, c'est mieux, finalement. Et donc, il y aura bientôt, comme ça, c'est mieux. Et puis, pour avoir des enfants, mais il y aura la PMA, puis la GPA. Et puis, l'utérus artificiel. Donc, c'est le combat des féministes radicales et des LGBT qui est dans toute la culture. Absolument toute la culture. Donc moi, j'ai écrit un livre là-dessus, Enquête sur la théorie du genre. Donc à la fois, surtout à l'école et dans toute la culture. Ça fait 5 ans que je fais, via Vigigender, un observatoire de cette diffusion du genre dans toute la société. Et donc, vous voyez, dans cette idéologie, les différences de l'autre sexe sont des stéréotypes à abattre. Les fameux stéréotypes sexués, vous voyez. Donc les différences, ce ne sont plus quelque chose qui va m'enrichir, quelque chose que je n'ai pas et qui va m'enrichir, non. Donc, ça ne fait qu'augmenter la lutte des sexes, en réalité, cette idéologie. Hier, je ne sais pas si vous avez vu, Le Point a publié un article rédigé par un historien canadien spécialisé des études de genre depuis 20 ans, qui a fait son mea culpa et qui a dit « Toutes ces études sont un mensonge. J'ai tout inventé de A à Z. Le postulat de la pure construction de l'identité sexuée est un mensonge. » L'éradication de cette différence sexuelle, donc c'est dans toute la société, les médias, les films. Les jeunes sont complètement formatés dans cette idéologie aujourd'hui. Il faut s'en rendre compte. Et aucun milieu n'est épargné. Aucun. Je n'ai pas le temps de détailler. Autre sujet, la politisation des violences à l'égard des femmes, qui sont un scandale. Mais la politisation est, pour moi, un outil pour diaboliser les hommes. Voilà. Et aujourd'hui, tout homme est un agresseur potentiel. Et donc, il faut que mesdames, c'est ce que je disais tout à l'heure, le colloque, il faut sortir de l'hétérosexualité et entre femmes, vous serez bien plus tranquilles. Parce qu'il y a aussi des violences à l'égard des hommes. Hein. 80 000 par an, mais ça, on n'en parle jamais. Donc, je récapitule, destruction du mariage, effacement de la différence sexuelle et, troisièmement, abrutissement des jeunes. Avec la chute du niveau de l'école, les jeunes ont beaucoup de difficultés en grammaire, on ne leur apprend plus la grammaire. Quand vous n'avez plus la grammaire, vous n'avez plus une pensée logique, vous ne pouvez plus penser correctement et émettre un raisonnement, une pensée élaborée, et vous avez du mal à chercher la vérité. Et vous êtes facilement manipulable. Il suffit de faire voir 2 ou 3 vidéos sur YouTube à un jeune, c'est bon, il est acquis à la cause qu'il a vue. Enfin, j'exagère à peine. Accès libre des jeunes à la pornographie. Pourquoi ne rend-on pas payante la pornographie? Tout simplement parce que les adultes en bénéficient. Donc, bah, tant pis, les jeunes, bah, c'est là que les parents n'ont qu'à vérifier. Vous pensez, j'ai rencontré un jeune récemment, 17 ans, il a crié « Au secours, sortez-moi de là !» Aucun écran chez lui. Il voit ça chez les copains. Propagande du genre à l'école. Je vous cite juste les nouveaux manuels de Sciences et vie de la Terre de seconde qui sont sortis à la rentrée. Nathan. Ou je ne sais plus lequel. L'identité sexuelle, c'est le fait de se sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux. Donc tous expliquent aux jeunes de 15 ans qui ne sont pas bien dans leur basket, ton identité, c'est le fait de te sentir quelque chose. Ce n'est pas le corps qui définit notre identité. Non, non, non. Le corps, il nous est le sexe nous est assigné à la naissance. Voyez. Et donc, il nous est imposé. Il n'est pas constaté. On leur dit qu'il est assigné. Sous-entendu, tu pourras changer. Voilà. Et donc, parmi les jeunes aujourd'hui, moi, je suis vraiment affolée de voir combien de jeunes aujourd'hui, de plus en plus, changent de sexe. Soit ils se font opérer, et donc changent de sexe anatomique, mais tout leur corps reste sexué, puisque je rappelle que toutes nos cellules sont sexuées. Soit ils demandent à ce qu'on, si elle s'appelle Marie, elle demande à ce qu'on l'appelle Pierre, et que tout le monde la considère comme un garçon. C'est extrêmement fréquent aujourd'hui. Et extrêmement traumatisant pour l'ensemble de la classe. Et on ne sait pas gérer ces cas-là. Enfin, on devrait savoir. On ne veut pas les traiter. L'éducation à la sexualité à l'école. Alors, je vous invite à aller voir plus tard le site onsexprime.fr, qui est le site conseillé donc, par l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, pour, je cite, un rapport sorti sur l'éducation à la sexualité, un rapport gouvernemental, pour ouvrir le champ des possibles en termes de comportement pour les générations futures. Ouvrir le champ des possibles en termes de comportement sexuel pour les générations futures. Vous avez compris. Et donc, dans les manuels de SVT, sont mis sur le même plan l'hétérosexualité, je reprends leur terme, l'homosexualité. Vous avez des images, un homme, une femme, deux femmes, par exemple. Et un truc que moi je trouve dingue, c'est que dans ces manuels, il y a des mensonges. On leur explique aux enfants, et depuis la quatrième, que les préservatifs sont fiables à 100% contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est faux. Totalement faux. Les taux varient entre 30% et 80%. La protection contre le sida par le préservatif, 80%. La protection contre chlamydia, je crois, 30%. Chlamydia, si je ne me trompe pas de maladie, je ne suis pas médecin, on ne voit pas les symptômes. Et donc, on devient stérile. Voilà, sans le savoir. 30%. Et on leur dit dans tous les manuels, 100%, allez-y, protégez-vous, faites ce que vous voulez, tant que vous êtes protégé, c'est bon. On les précipite de plus en plus tôt dans une vie sexuelle en leur disant des mensonges. C'est un scandale. C'est vraiment scandaleux. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas traiter la cause, on ne veut pas traiter le problème en leur disant « Ben non, en fait, la sexualité, c'est sérieux. La sexualité, c'est dans un engagement total pour la vie. Voilà. C'est un sens, la sexualité. » Là, ça n'a pas de sens, puisque le seul... Il n'y a pas de sens. Ils disent « Le corps est un objet, comme je vous disais. » Donc, tant qu'on est consentant sur les actes que l'on pose, voilà, on s'utilise mutuellement, on prend un bon temps. C'est comme une partie de tennis, si vous voulez. Vous choisissez votre partenaire à peu près à égalité. Vous prenez un bon temps et voilà. C'est ça, la sexualité aujourd'hui. Je vous cite la définition de la sexualité donnée dans un petit fascicule distribué aux jeunes à l'école. La sexualité, c'est utiliser son corps pour prendre du plaisir, seul ou à plusieurs. C'est clair, utiliser son corps. Le corps est un objet. Le planning familial en tête, voilà, diffuse ce genre de choses, y compris dans le privé. Entre 2012 et 2016, l'utilisation du préservatif a augmenté de 100%. Voilà, elle a doublé, bref. Les IST, infections sexuellement transmissibles, ont triplé, évidemment. Voilà, donc l'abrutissement des jeunes, voilà, je l'ai. Bon, en plus, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Ah bon. Ils sont extrêmement manipulables et ils sont manipulés aujourd'hui par la société, par toute la culture, au goutte à goutte, tous les jours, tous les jours. Tout cela baigné dans ce que disait Henri, à savoir le relativisme. Il n'y a plus de vérité, il n'y a pas de vérité. Chacun sa vérité. Non, chacun son opinion. Donc il n'y a plus de vérité, donc tout se vaut, donc chacun fait ce qu'il veut. La liberté, mal comprise, c'est faire ce qu'on veut. Ben non, ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est avoir la capacité de choisir le bien. C'est ne pas être entravé par le mal. Donc la raison n'est plus suffisante pour lutter contre ce rouleau compresseur qui détruit tout sur son passage. Si vous essayez d'invoquer le bon sens, la loi naturelle finalement, on vous traite d'arriéré. Hein, une députée a traité les familles hommes-femmes de familles arriérées. Bien sûr d'homophobes. Donc là, c'est le couperet qui tombe et vous ne pouvez plus parler. Quoi. Terminé. Alors, quelques exemples. Alors, c'est ma nièce, 15 ans. Mais tante Esther, si un garçon veut devenir une fille, quel est le problème? Il est libre. Oui, ça m'a valu une petite explication avec ma nièce. Mais madame, puisque la technique permet d'éviter à des enfants de naître avec des maladies génétiques et donc de souffrir et de faire souffrir leurs parents, c'est bien. Donc, vous voyez là, en fait, les jeunes, beaucoup de personnes jugent l'acte à son efficacité. Il n'y a plus de vérité, donc on choisit l'acte efficace. Il n'y a plus d'acte bon, puisqu'il n'y a plus de vérité. Mais madame, c'est bon le sexe, le plaisir est bon. Ah oui, ça c'est vrai. Et puisque grâce à la contraception, on peut baiser quand on veut, et puis si jamais il y a un accident, il y a la pilule du lendemain ou l'avortement. Donc pourquoi s'en priver? Oui. Ben oui. D'ailleurs, le ministère de la Santé le dit. La sexualité, c'est bon pour la santé. Vous avez entendu parler de la santé sexuelle? Celui qui a inventé ça est un génie. Hein, parce que si vous êtes contre, vous êtes contre la santé des gens. Voilà. Donc la santé sexuelle, c'est, je le résume avec mes mots à moi, prendre son pied quand on veut. Voilà. Et donc même maintenant, on va mettre en place des personnes qui vont aller s'occuper des personnes handicapées, pour ne pas dire autre chose, pour qu'elles aient une sexualité. Oui. Tout le monde a droit à la santé sexuelle. Ça s'appelle les droits sexuels. Et les enfants ont des droits sexuels. Ça faisait partie de toute une stratégie de santé sexuelle développée dans les écoles en 2017. Tous les enfants de la maternelle au lycée doivent être informés sur leurs droits sexuels. Bon, heureusement, toutes les écoles ne le font pas, mais certaines le font. Alors, est-ce que toute cette destruction va s'arrêter par une prise de conscience collective uniquement d'ordre écologique ? On voit bien que là, il y a toute une prise de conscience de l'écologie environnementale, et tant mieux, sur les modalités, on passera. Bon, pas d'OGM, donc pas de manipulation du vivant, est-ce qu'on va y arriver pour l'homme ? L'argument a été évoqué à l'Assemblée, lors de la discussion sur la loi bioéthique, par une députée LREM. Bon, évidemment, elle n'a pas été écoutée. Bon, aujourd'hui, il y a du respect du bio, oui, mais il n'y a pas de... On ne fait pas référence à la nature, c'est-à-dire la nature, ce n'est pas que le bio. La nature, c'est quel est le sens des choses, quel est le sens de la création. On ne fait pas référence à un ordre naturel, parce que si on fait référence à un ordre naturel, il faudrait faire référence à un créateur. Ça, c'est insupportable pour la société aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes, effectivement, comme on ne mange plus de poulet aux hormones, ben, se disent quand même, moi, la pilule, c'est quand même des hormones plus, donc c'est quand même pas top. Donc beaucoup de femmes arrêtent la pilule, et tant mieux. Mais beaucoup se reportent sur le stérilet. Stérilet qui est un système, vous le savez sans doute, abortif. Et beaucoup d'hommes, de plus en plus en France, se stérilisent. Bon. Et puis, être maître de la vie, c'est le rêve de l'homme, la toute puissance, être maître de la vie. Donc, je ne pense pas que la raison suffise, comme je le disais. Et puis, le dernier argument massue, donc, c'est « Mais madame, si deux femmes ou deux hommes s'aiment, c'est beau, c'est normal qu'ils aient un enfant. Tant qu'ils l'aiment, tout va bien. » C'est l'argument qu'on a eu en boucle là, sur les plateaux télé. Bon. Et c'est là le cœur du problème. On ne sait plus ce que c'est qu'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer ? L'homme est fait pour aimer et être aimé. C'est sa raison d'être. C'est au fond de notre être. Au fond de notre être, il y a ce désir d'aimer en vérité, véritablement. Mais on ne sait plus trop ce que c'est. Et pourquoi on ne sait plus ce que c'est ? Parce que l'homme s'est coupé de Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est l'amour, il n'est que l'amour. Donc quand on se coupe de Dieu, on ne sait plus ce qu'est l'amour. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a que Dieu qui peut nous dire ce qu'est l'amour. C'est pour ça que seul le Christ... qui nous révèle Dieu, Trinité, peut nous dire ce qu'est l'amour et peut nous aider à revivre, à aimer véritablement. Seul Dieu nous montre ce qu'est l'amour. Et donc, pour reconstruire la famille, il est urgent d'annoncer ce que le Créateur avait comme dessein d'amour en nous créant avec un corps sexué, homme et femme. C'est vrai, ça, pourquoi Dieu n'aurait pas créé comme les escargots à s'auto-reproduire, c'est vrai. Non, il nous a créé homme et femme. Il avait juste un projet d'amour pour nous. Vous voyez, en fait, il faut faire voir le haut de la montagne. Qu'est-ce que Dieu avait comme projet pour nous ? Par notre péché, nous, on est dans le brouillard, on tâtonne un peu, mais tant qu'on ne voit pas le sommet, on ne va pas y arriver. Et pour voir le sommeil, il faut se tourner vers Dieu. Et donc, c'est ma deuxième partie. Avant de passer à ma deuxième partie, je voudrais juste ce témoignage d'un jeune homme. Il y avait une réunion dans un conseil général avec toutes les associations qui parlent d'éducation affective, relationnelle et sexuelle à l'école, vous savez. Et donc, ils disent chacune l'une après l'autre ce qu'elles font. Et après, la parole a été donnée aux élèves présents. Il y en a un d'eux qui s'est levé en disant « Mais il y en a marre !» On ne nous parle que de protection, de maladie, on ne nous parle jamais d'amour. Mais c'est quand même la sexualité, c'est quand même l'expression de l'amour. Voilà, le cri du cœur, parce qu'en fait, c'est en nous et on a besoin d'apprendre à aimer. Donc, qu'est-ce que Dieu avait comme projet en nous créant hommes et femmes ? Et donc, je vais vous faire en 10 minutes ce que Jean-Paul II a fait en 800 pages. Voilà. Donc, désolé pour les raccourcis. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, la synthèse est là, vous pouvez consulter tout à l'heure, c'est un livre qui vient de sortir, sur le beau projet de Dieu pour l'amour humain. À l'origine, dans la Genèse c'est un récit mythique, mais qui ne nous dit pas comment ça s'est passé, la création en 7 jours, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il nous dit le sens, ce texte. Le sens, voilà, quel est le sens de l'homme ? Qui est l'homme ? Eh bien, à l'origine, Dieu a créé l'homme, homme et femme, comme avec un corps sexué, comme être de don. On a un corps sexué pour être don de nous-mêmes, l'homme don à la femme et la femme de don de soi-même à l'homme. Et ce don mutuel de l'homme et la femme à l'origine, tel que Dieu l'avait pensé, eh bien ce don mutuel dans le mariage et particulièrement dans le don des corps, ce don mutuel est en vue de la communion des personnes. Et cette communion des personnes à l'origine révèle Dieu qui est communion de trois personnes. Dieu est communion des personnes divines, Trinité, et cette communion à l'origine, Dieu a voulu la dire, Dieu a voulu se dire dans la communion de l'homme et de la femme à l'origine, y compris dans la communion des corps. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour nous unir à lui. Et donc pour nous unir à lui, il fallait nous faire capables de dons, pour nous unir à lui, et dans l'éternité, être tout donné à Dieu et Dieu est tout donné à nous-mêmes. Ça sera à la résurrection. Et donc, il nous a créé avec cette capacité de don pour pouvoir un jour être totalement unis à lui dans la résurrection. Parce que Dieu n'a pas voulu garder son... Dieu était parfait, il n'avait aucune raison de nous créer. Mais il nous a créés pour nous faire partager son bonheur. Et son bonheur, c'est lui-même. C'est son amour, c'est cette trinité d'amour. Et il nous a créés pour nous faire entrer dans cette trinité d'amour. Et on y rentrera pleinement à la résurrection, mais dès cette terre, on est appelé à vivre tous dans la communion. La communion d'abord de l'homme et de la femme dans le mariage, mais aussi la communion entre nous, ce qu'on appelle la fraternité, qui bien sûr n'engage pas le corps tout entier, mais qui nous engage quand même par notre corps, puisque tout ce qu'on fait, c'est par notre corps. Et donc cette communion à l'origine de l'homme et de la femme dit Dieu. Je cite le pape Jean-Paul II à propos de l'union conjugale. Il n'existe pas dans ce monde entier d'image plus parfaite et plus totale de Dieu, de l'unité et de la communion. Il n'y a pas d'autre réalité humaine qui corresponde plus sur un plan humain à ce mystère divin. Et donc, vous voyez, le corps masculin est fait pour le corps féminin et vice-versa. Quand Adam dit en voyant Ève « Ah, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair », il ne dit pas seulement « Ah, qu'est-ce qu'elle est canon, celle-là ». Il dit surtout « Je comprends ma raison d'être. Je comprends que je suis fait pour me donner à Ève. Je suis pour Ève. Ma masculinité est pour la féminité. Et vice-versa, la féminité est pour la masculinité. L'homme se révèle par la femme. C'est en se donnant qu'il va révéler sa masculinité. Et vice-versa. Et voyez bien aujourd'hui que l'homme, il a du mal à se donner à la femme parce que la femme, excusez-moi, je fais une généralité, on lui dit d'être un homme comme les autres. La femme fait peur aujourd'hui. Et donc l'homme a du mal à se donner à la femme. Quand on est face à la différence sexuelle, on ne peut plus se comprendre, puisque on ne peut se comprendre que par rapport à l'autre. Et c'est le corps qui révèle à l'homme qui il est. C'est le corps sexué qui révèle à l'homme qu'il est homme ou femme. Le corps révèle l'homme, dit Saint Jean-Paul II. Mon corps, c'est moi, et non pas mon corps m'appartient. Et donc, quelles sont les conséquences? Ça, c'était le plan de Dieu à l'origine. Magnifique, très bien. L'homme a tout foutu par terre avec le péché originel. C'est quoi le péché originel? C'est tenté par Satan. L'homme et la femme ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'ils ont voulu décider eux-mêmes le bien et le mal, au lieu de le recevoir de Dieu. Ils se sont coupés de Dieu, ils ont refusé le don de Dieu, et donc quand on refuse le don de Dieu, quand on se coupe de Dieu, on met Dieu en soupçon, non, il ne veut pas notre bonheur en fait. Donc moi, je vais définir moi mon propre bonheur, c'est ça le péché originel, et on le revit tous les jours. Et donc quand on se coupe de Dieu, eh bien on se coupe de toutes les choses qui découlent de Dieu. La nature, l'environnement, l'autre et soi-même. La nature, on voit bien comment l'homme a surexploité la nature sans respecter les lois intrinsèques à la nature. J'y reviens pas, heureusement il y a ce mouvement écologique qui permet de prendre soin de la nature, mais un peu trop militant et qui considère la nature un peu comme une idole. Bon bref, je passe. Quand on se coupe de Dieu, on ne voit plus l'autre comme un don. Comme un don de Dieu, puisqu'on s'est coupé de Dieu. On ne voit plus l'autre comme un don, donc on met la main sur l'autre. Et donc on utilise l'autre pour son profit, pour sa satisfaction, pour sa jouissance. Je n'accueille plus l'autre comme un don que Dieu me confie pour que j'en prenne soin, que je me donne à lui pour son bien. Se donner à l'autre, de manière générale, c'est peut-être un sourire, un regard, un service, une capacité que je mets au service de l'autre, une parole, subvenir à ses besoins, la justice, etc. C'est ça, être pour l'autre. Être dans le don pour l'autre, c'est être pour l'autre au lieu que l'autre soit pour moi. Et dans le couple, pour l'homme et la femme, c'est être pour l'autre et non pas utiliser l'autre pour moi, et en particulier dans l'union conjugale, ne pas utiliser l'autre pour assouvir mes pulsions. Et le problème du péché originel, c'est ça, c'est que l'autre devient un objet de jouissance, j'ai tendance à utiliser l'autre. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est utiliser l'autre pour soi. L'amour, la perfection de l'amour, c'est un don de soi pour l'autre. Être pour. C'est la concupiscence qui est entrée dans le cœur de l'homme. Le péché originel a blessé notre cœur. Ce n'est pas notre corps qui est blessé. Le corps est la victime. Le coupable, c'est le cœur. Et donc notre cœur est blessé par le péché originel et c'est le Christ qui vient restaurer notre cœur avec sa grâce pour nous apprendre à nouveau à aimer. Nous n'accueillons plus l'autre comme un don et nous ne nous accueillons plus nous-mêmes comme un don de Dieu. D'où le gender. Je ne suis pas un don de Dieu, enfin sûrement pas. Mon corps a des limites, c'est problématique, je nais avec un sexe, franchement, je ne peux pas faire ce que je veux, donc je n'accueille pas mon corps, c'est ça le gender. Et donc du coup, les jeunes ne savent plus qui ils sont. On leur fait croire que le but de la vie, c'est de jouir un maximum, de consommer des achats, des loisirs, etc., et bien sûr de consommer du sexe. La masculinité et la féminité ne sont plus du tout vues comme des dons que je reçois à faire fructifier, mais comme quelque chose dont il faut se débarrasser. Il faut rentrer dans des nouveaux stéréotypes, on ne sait pas trop lesquels d'ailleurs, de l'homme neutre, mais en tout cas qui n'a pas besoin de l'autre sexe. Ça, c'est certain, dans le gender. Et donc, le but du gender, je vous l'ai dit, c'est que l'hétérosexualité ne soit plus la norme. Bah, oui, quand la différence sexuelle est effacée, en détruisant, comme ils disent, les stéréotypes sexués, dès le plus jeune âge, avec des livres, par exemple, « Mon frère, ma princesse », qui explique l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir une fille, ou alors « La princesse chevalier », vous voyez, on inverse les stéréotypes sexués. Donc la force du garçon, non, au placard, c'est la fille qui a sa force musculaire et qui va aller libérer le prince qui est dans son donjon, vous voyez, ce genre de choses. Donc, en fait, on nie complètement le corps et la signification du corps, y compris jusqu'à la force musculaire. Bon, je ne peux pas détailler. Et donc, pour que l'hétérosexualité ne soit plus la norme, pour que ce soit possible, pour que toutes les pratiques sexuelles soient équivalentes, finalement, ce qu'on nous assène aujourd'hui, il fallait d'abord faire croire aux gens que la sexualité, c'est un besoin vital, nécessaire pour notre santé. Ce qui n'est pas le cas. Il fallait faire croire que nous avions un droit à jouir. Et il fallait donc, pour cela, et c'est là qu'est la révolution anthropologique, couper le lien entre la sexualité et la procréation. Il fallait se débarrasser définitivement de ces trucs qui nous emmènent parce qu'on ne peut pas prendre son pied quand on veut. Voilà. Il fallait couper la procréation de la sexualité pour pouvoir jouir sans entrave. Et donc, la contraception est la révolution anthropologique qui a ouvert la porte à toutes les destructions que je vous ai citées. Et je vais essayer de le détailler. C'était la porte d'entrée. Le cycle de la femme est un problème. Oui, je ne m'accueille plus comme un don. Ou la société m'impose de ne plus m'accueillir comme un don, parce qu'on est bien formatées, les femmes aussi, hein, par ce discours. Et donc, je n'accueille pas mon cycle comme un don. C'est un boulet. Donc, il faut le supprimer. Oui, Marcy, j'ai plus mon cycle. En fait, moi, je deviens un objet pour l'homme. Parce que je suis disponible H24. Donc, je n'aide pas l'homme à maîtriser ses pulsions. Parce que l'homme a une grande vulnérabilité dans sa sexualité. Elle est belle, sa sexualité. Il a des belles pulsions. Mais il a du mal à se maîtriser. Il est vulnérable. Et tout le génie du cycle de la femme, c'est qu'il aide l'homme à se maîtriser. La femme aide l'homme à se maîtriser. Et donc à vivre l'union dans le don de lui-même au lieu de prendre sa femme pour jouir. Pardonnez-moi, je vais très vite, mais enfin, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est... je suis obligée d'aller très vite. Et puisque la plupart des femmes sont sous pilule ou stérilées, et puis de toute façon, sinon il y a le préservatif, bah, quand ça ne va plus bien dans le couple, bah, on va aller voir ailleurs. Parce qu'il n'y a aucun risque d'avoir un enfant. Donc allons voir ailleurs. Vous voyez, on a supprimé complètement la procréation de la sexualité. Donc c'est la porte ouverte à l'adultère, c'est la porte ouverte à tout ça. Chez les jeunes, c'est les plans cul, vous savez, c'est les sex friends. Donc, alors maintenant, c'est plus seulement à deux. Hein. On est sorti de ça. Hein. Ça s'appelle le polyamour maintenant. Donc là, la mode maintenant, c'est le polyamour. Donc de mon temps, ça s'appelait les partous. Mais voilà. Et on change les mots parce que partout ça fait un peu peut-être trop. Mon tableau est assez noir, mais je vous assure que c'est la réalité. Ouais. Donc, la contraception a été ce basculement anthropologique, c'est la porte d'entrée dans la déconstruction. Après, la galerie qui suit la porte, c'est l'idéologie du genre. Il n'y a pas d'autre possibilité, hein, parce que toute la culture est infestée de genre. Donc, vous n'avez pas d'autre possibilité que d'être dans l'idéologie du genre. Et la galerie est décorée par la pornographie. Et au fond, vous avez le désespoir. Voilà. Direct. Oui. Et aujourd'hui, les jeunes sont désespérés. Enfin, ils n'ont plus de sens, beaucoup, n'ont plus de sens à leur vie. Parce que l'homme n'est pas fait pour le plaisir. Il est fait pour la joie. Le plaisir participe à la joie. Mais la joie, c'est bien plus que le plaisir. La joie, elle est le fruit de la communion. La joie, elle est le fruit du don. Parce que l'homme est un être de don. L'homme, dit Vatican II, l'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. C'est-à-dire que Dieu nous aime infiniment chacun. Seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même ne peut se trouver pleinement que dans le don sincère de lui-même. L'homme ne s'accomplit que dans le don de soi. Alors vous allez me dire, mais non, mais si je me donne, je me perds. Mais non, on est fait pour le don. Vous voyez bien, quand on rend un service gratuit, sans attendre rien en retour, ça nous met en joie. Vous demandez à vos enfants, si vous avez des enfants, vos neveux et nièces, qu'est-ce qui les a mis en joie, ben, quand ils sont allés chanter dans une maison de retraite, par exemple. Vous voyez, un service gratuit. Quand ils ont mis la table, ça les embêtait vraiment, mais ils l'ont mis parce que ça faisait plaisir à maman ou à papa. Ils sont contents après. Ils le savent très bien. Donc la contraception a permis d'achever de détourner l'homme de sa vocation, à savoir le don de soi par le don de son corps. Ben oui, parce que pour pouvoir se donner pleinement l'époux à l'épouse, se donner totalement, donc se donner avec son corps, donc avec sa fertilité. Je me donne à mon époux avec ma fertilité, il se donne à moi avec sa fertilité. S'il enlève si j'enlève ma fertilité, si je coupe mon cycle, je ne me donne pas totalement. Je me donne partiellement. Et mon mari ne m'accueille pas totalement. Un vrai acte d'amour, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est et de se donner à l'autre tel que je suis. Ça, c'est un véritable acte d'amour. Ah non, mais je t'accueille, ma chérie, mais ta fertilité, non. Tu la gardes pour toi. Non. Ça, c'est pas un véritable acte d'amour. Et nous, nous raisonnons toujours, comme je vous le disais, en efficacité. Oui, mais c'est quand même efficace de prendre la pilule, tout ça, c'est pratique. Mais en fait, vous voyez, on met Dieu en suspens. Est-ce que Dieu, en fait, je sais, quand il a créé la femme, il a eu un moment de distraction. Zut, j'ai fait une boulette. Mais c'est pas grave, au XXe siècle, là, il y aura la pilule, ça va tout arranger. Ben non, en fait. Mais c'est nous, si vous voulez, qui mettons le bien à notre niveau. Ah oui, mais moi, je suis dans un cas particulier. Moi, la première, quand j'ai attendu ma quatrième enfant, et donc on a appris à 3 mois de grossesse qu'elle avait une trisomie 13, donc elle ne serait pas viable, bah ouais, frère, en fait, pourquoi continuer la grossesse, hein ? Donc là, mon médecin m'a dit IMG, tout ça. Bah, c'est plus simple quand même, parce qu'encore 6 mois de grossesse, c'est quand même plus... Ouais. Et puis on a rencontré une sœur des maternités catholiques. Elle nous a dit, vous aussi, vous allez mourir. Et pour autant, on ne vous tue pas. Ah ouais. Elle nous a sauvés. Elle a sauvé notre petite fille, qui est née à 7 mois de grossesse, qui a vécu 3 jours, qui est baptisée et qui est maintenant au ciel. Ça, j'en suis sûre. Et donc, je suis mère d'une sainte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous voyez, en fait, et la loi de Dieu dit pourtant, les 10 commandements, tu ne tueras point. Mais on se dit, oui, mais c'est pas l'aimer, cette petite fille, si elle va souffrir, vous voyez, toujours avec on apitoie, etc. Mais si, l'aimer, c'est lui faire vivre sa vie qu'elle a à vivre. Donc on est tous tentés de mettre la loi à notre niveau. Oui, moi, je suis dans un cas particulier, donc ça ne s'applique pas à moi. Je sais mieux que Dieu ce qui est bien pour moi. Voilà notre péché. Et donc, nous avons besoin de la grâce du Christ pour changer notre cœur. Et le Christ nous montre... est le modèle du don. Il est tout don, le Christ, soit en prenant soin des pauvres, il est toujours pour l'autre, il est pour l'autre. Il n'est pas que l'autre, les autres ne sont pas pour lui, il est pour l'autre, il est au service. Je suis venu pour servir. Donc il est le modèle et il est le moyen. Par sa grâce, il nous permet de vivre à nouveau dans le don, de guérir notre cœur qui veut prendre l'autre pour soi et de faire en sorte que nous soyons à nouveau pour l'autre. Alors ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas de la magie. Par les sacrements, et peu à peu, on va devenir des saints. Voilà. Ça peut prendre... Il y a des personnes qui sont saints enfants, d'autres, ça va être sur leur lit de mort. Voilà, chacun son rythme, mais ce que seul Dieu attend, simplement, c'est notre « Oui, Seigneur, je veux te suivre, viens me donner ta grâce pour vivre à nouveau dans le don. » Et l'enjeu est énorme pour la famille, parce que la famille, enfin, le couple humain, on a vu, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, toute cette déconstruction de la famille... qui passe par la déconstruction du couple, c'est une destruction de Dieu au sein du monde, puisque le couple est prophète dans le sens où il dit Dieu. La communion de l'homme et de la femme dit Dieu, qui est communion de personnes. Donc moins il y a de couples qui s'aiment dans la communion et qui vivent cette communion et qui s'accueillent tels qu'ils sont dans tout leur corps, eh bien moins Dieu est présent dans le monde. Et donc vous voyez pourquoi toute cette déconstruction en fait est un combat maléfique. Parce que le diable ne supporte pas que l'image de Dieu ne soit pas en lui-même, hein, et qu'elle soit dans l'homme et la femme, et encore pire, dans leur union conjugale, dans la chair. Bon, Dieu là, pas possible. Donc il ne supporte pas, donc il s'est attaqué à ça. Et c'est pour ça que je ne sais pas si c'est l'ultime combat du diable, mais en tout cas c'est le pire, puisqu'il détruit l'image de Dieu dans le monde. Cette destruction de la famille détruit l'image de Dieu dans le monde. Le pape François disait, l'idéologie du genre, c'est l'arme de destruction massive contre la famille. Et donc nous avons à apprendre à vivre dans le don pour ne plus être esclaves de la concupiscence, cette concupiscence qui nous pousse à prendre l'autre pour soi. Et la concupiscence, en fait, nous rend esclaves. On n'est pas libre. On n'est pas libre quand on est tout en soumis à ses pulsions. Et donc, apprendre à vivre dans le don va nous permettre de nous libérer et d'être enfin libres. Pour devenir... pour ce qui concerne la famille, des couples saints. Et plus il y aura de couples saints, plus il y aura de prêtres saints et vice-versa. Pourquoi ? Parce que le prêtre, il est consacré en général. Ils se sont totalement donnés à Dieu. Ils vivent déjà leur vocation au don. Ils la vivent dans un don radical à Dieu. Et ce don à Dieu, nous le ferons à la résurrection, en espérant le désirer. Et donc, les personnes consacrées anticipent sur terre ce don à Dieu que nous ferons, nous, à la résurrection. Et donc, plus il y a de couples saints qui, malgré les difficultés, sont fidèles et vivent cet accueil mutuel, ce don, cette communion, plus les prêtres seront fortifiés dans leur fidélité à Dieu. Une sœur me disait il y a quelque temps que ça lui faisait du bien de voir des couples fidèles et dans la communion parce que elle me dit oh mais moi parce que moi Dieu je vois pas hein. Donc c'est pas simple hein. Ah oui donc ça l'aide. C'est vraiment une aide mutuelle et c'est deux vocations qui se complètent, deux vocations qui réalisent notre vocation unique, la vocation de tout homme, qui est la vocation au don sponsal, dit Jean-Paul II, le don des époux, le don sponsal qui lui sera réalisé à la résurrection, c'est le don total de soi à Dieu, sponsal, ça vient de sponsarer, épouser, puisque Dieu veut épouser l'humanité dans le Christ. Dieu est venu sauver l'humanité en danger, comme un mari sauve son épouse quand elle est en danger. Et donc, dans la famille, nous sommes appelés à vivre la communion. Aujourd'hui, dans la société, on vous dit, une famille, c'est vivre ensemble, quoi. On s'aime, on vit bien ensemble. Dans la société, la fraternité est devenue le vivre ensemble, mais ce n'est pas ça. La fraternité, c'est considérer que l'autre est un frère qui m'est donné pour que j'en prenne soin. Ce n'est pas du tout le vivre ensemble. Le vivre ensemble, on vit en parallèle. En fait, on s'entend, on se tolère, voilà. On n'empiète pas sur la liberté du voisin, mais ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à la communion entre nous tous. Et cette communion sera vécue pleinement dans la communion des saints. Mais on est appelé à beaucoup plus. Et donc l'urgence aujourd'hui, j'étais dans ma partie 3, comment reconstruire, c'est l'urgence pour moi, c'est d'éduquer à l'amour, apprendre à aimer. Et ça s'apprend dès qu'on est tout petit. Et le pape François le dit dans Amoris Laetitia, la préparation au mariage, ça commence au berceau. C'est quoi aimer ? C'est l'amour, c'est un don et un accueil gratuit. Don et accueil. Vous voyez, le cercle signifie la plénitude. Je reçois l'autre comme un don merveilleux. Vous êtes tous des dons merveilleux. Et l'autre est vulnérable. La vie humaine est vulnérable. Et donc, j'ai à prendre soin de ce don qui m'est fait, cette personne qui m'est confiée par Dieu. Je suis responsable. Oui, je suis responsable. Et pour ça, il y a des règles, les règles de la grammaire de la vie. Tout comme dans l'environnement, eh bien, il y a des lois intrinsèques à la nature. Et pour qu'une vigne fructifie bien, mais il y a des règles à suivre que l'homme a pu élaborer avec sa raison. Il faut le sol comme ci, telle terre, tel ensoleillement pour que la vigne porte tout son fruit. Donc l'homme a compris tout ça. Bah, pour l'homme, c'est pareil. Pour l'écologie humaine, c'est la même chose. Il y a des règles. Et la règle d'or de l'écologie humaine, c'est ne pas utiliser l'autre. L'autre ne peut jamais être un moyen pour assouvir mes besoins, mais être pour l'autre. Et donc, éduquer à l'amour, et donc accueillir l'autre comme un don, et s'accueillir soi-même comme un don, et donc apprendre aux jeunes à accueillir leur masculinité, leur féminité, qui est une merveille. Et c'est un don qu'on reçoit à la naissance et qu'on est appelé à faire fructifier. Accueillir aussi ses fragilités, ses faiblesses. On n'a pas tous les dons, on a peut-être des fragilités particulières, tous, des blessures. Eh bien, les accueillir, parce que les accueillir, en les accueillant, je vais permettre à un autre qui a une force complémentaire à ma fragilité de pouvoir donner sa force, la mettre à mon service. Et donc, si je permets à l'autre de se donner, je vais lui permettre d'être, je vais lui permettre de s'accomplir, puisque vous avez compris que l'homme s'accomplit dans le don. Donc en accueillant mes fragilités, je vais permettre à un autre de se donner et donc de s'accomplir. Mais si je n'accueille pas mes fragilités, et aujourd'hui notre société déteste la vulnérabilité, et on ne permet pas à des personnes de se mettre au service de la fragilité, et donc on ne leur permet pas de s'accomplir. apprendre aux jeunes filles à accueillir leur cycle. Il est beau, c'est comme des saisons, à en prendre soin. Ça, c'est ce qu'on développe dans un parcours qui s'appelle Grammaire de la vie, développé par René et Isabelle Cochard, petit manuel d'écologie humaine. On a développé un parcours pour tout ça. Et enfin, pour reconstruire, eh bien, il faut annoncer ce beau projet. Et quand on annonce ce beau projet de Dieu pour l'amour humain, eh bien, je vous assure que c'est vraiment des vies qui sont bouleversées. Et les jeunes qui découvrent ça, et les moins jeunes, mais les jeunes ont le feu après pour annoncer ce beau projet. Il faut l'annoncer. Un jeune disait comme ça, plus on dira la vérité sur le corps, plus on donnera Dieu au monde. Et aujourd'hui, moi, je suis persuadée que la nouvelle évangélisation passe par la diffusion de cette théologie du corps de Saint Jean-Paul II qui nous dit ce qu'est le corps. Notre corps est un corps de don en vue du don total de notre personne, soit dans le mariage, soit dans la vocation consacrée, en vue du don à la résurrection. Bien sûr, il y a des personnes qui n'arrivent pas à choisir, à s'engager dans une des deux vocations, des personnes qui restent célibataires, mais pour autant, elles sont aussi appelées au don auprès des personnes qui les entourent, dans le service, et puis le don final à Dieu, à la résurrection. On est tous faits pour le don total. Et je terminerai pour tout ce qui est l'éducation affective et sexuelle à l'école. Je pense que vous avez compris qu'il n'est plus possible aujourd'hui de faire de ce qu'on appelle l'EARS sans parler de Dieu. Vous ne pouvez plus parler de la sexualité sans parler d'amour. Et vous ne pouvez pas parler d'amour sans parler de Dieu. Aujourd'hui, on déconnecte complètement le ARS du caté. Mais c'est une absurdité. Pour comprendre le sens de la sexualité humaine, vous avez vu qu'on le fait pour le don, il faut regarder Dieu. C'est Dieu qui nous dit le sens du corps, le sens de notre corps fait pour la communion. Et donc, il faut arrêter de dire en ARS, on ne parle pas de Dieu. Surtout dans les écoles privées. C'était, il me semble, important. Tout est lié, dit le pape François, car tout vient de Dieu. Donc si je me coupe de Dieu, et si je ne respecte pas l'ordre naturel voulu par Dieu pour notre bonheur, tout se détruit. Et enfin, dernière chose, bien sûr, il y a la prière qui est nécessaire, puisque le combat contre la famille est d'ordre maléfique. Et donc la prière est nécessaire. Et je cite Saint Jean-Paul II pour finir. À propos de l'accueil de la femme telle qu'elle est avec son cycle et de l'homme tel qu'il est, je supplie Dieu de faire accéder les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à ce niveau de vérité libératrice et humanisante. Et enfin, le pape François, dans la dernière phrase d'Amoris Laetitia, ça c'est le logo de Grammaire de la vie, là ici c'est la résurrection, c'est Dieu. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise.